Christiane Singer, vous écrivez dans votre dernier livre, « Cours-tu, ne sais-tu pas que le ciel est en toi ?» Vous écrivez cette phrase, « Il n'est pas d'autre chemin pour sortir des léthargies nauséabondes, des demi-sommeils, des commentaires sans fin, que de naître enfin à ce qui est. » Cette phrase m'intrigue, « Naître enfin à ce qui est », qu'est-ce que c'est?
C'est ce que nous avons un peu abordé au début, quand je vous disais que oser, par exemple, faire une halte auprès d'un arbre, ou auprès d'un être, auprès d'un chat, auprès de tout ce qui fait part de cette immense création dont je suis un atome constituant. Hein. Et dans toutes ces rencontres avec ce qui est, quand vraiment je laisse cette respiration entre ce que je rencontre et moi se faire, là se produit quelque chose qui est nourricier. Je sors de cette faim, de cette quête permanente, hein, qui me fait courir à travers le monde comme un loup affamé. Pourquoi ? Parce que justement, je ne laisse pas l'intensité d'une rencontre vraie donner son fruit. Et c'est une question de rythme de vie, hein, de pouvoir demeurer un moment avec quelque chose, sans zapper vers autre chose, n'est-ce pas ? C'est cette consistance qui vous rencontre après. Autrement, c'est toujours un effleurement de la superficie. Vous n'entrez dans ce qui est nourricier de cette réalité qui nous entoure uniquement en vous donnant le temps.
Mais en entendant ce mot « naître enfin à ce qui est », je ne peux pas m'empêcher de ne pas me souvenir la phrase de l'évangile de Saint Jean, « Il faut naître de nouveau, il faut naître d'en haut ». Est-ce que c'est de l'ordre de cette nouvelle naissance dont vous parlez ?
Oui, bien entendu. Bien sûr que c'est de cet ordre. C'est lorsque les représentations que j'ai de choses, lorsque les concepts tombent en morceaux, lorsque toutes les idoles que je me suis faites, qui sont de l'ordre des opinions que j'ai sur les choses, hein, ce sont autant de voiles entre les choses et moi, pour me laisser enfin saisir. Hein. Il n'y a que le saisissement qui vous donne la nature des choses, qui vous met véritablement en contact avec ce qui est. Et c'est s'ouvrir à ceci, n'être plus aussi encombré, comblé de choses comme une fosse comblée. Hein. Nous sommes comblés, nous sommes remplis à ras-bord. Il n'y a plus rien qui puisse nous rencontrer. Et c'est dans cette vacuité retrouvée, dans cette ouverture, qui est celle de, oui, laisser un instant le mental à sa place de valet, un serviteur très utile, très brillant, très important, mais qui doit rester dans son rôle de serviteur et me laisser parfois dans cette vacuité de la rencontre immédiate. Et dans cette vacuité s'engouffre toujours l'esprit.
Christiane Singer, il y a quelqu'un que vous citez souvent qui s'appelle Graf Durkheim. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous ?
C'est une rencontre dans une crise très très profonde avec le travail qui avait été celui de Graf Durkheim, à travers surtout une de ses élèves qui était Hildegund Graupner, qui m'a permis de faire dans ma chair ce processus que je décris, parce que je pense que ceci, ça aussi, c'est certainement perceptible à un lecteur comme à un auditeur. Est-ce que je parle de manière rapportée ? Est-ce que le savoir dont je m'inspire est un savoir emprunté, un savoir second-hand, hein ? Ou est-ce qu'il est vécu ? Est-ce qu'il est marqué dans la chair ? Il est évident qu'il ne prend cette qualité de témoignage que lorsqu'il a été vécu, lorsqu'il a été incarné. Et le travail de Graf Durkheim était tout à fait passionnant. Il nous remettait dans le corps. Et c'est ce que j'ai décrit plus ou moins, cette expérience de ne crois pas tout ce qu'on t'a appris. C'est comme si vraiment c'était Thomas qui désormais était notre guide, c'était l'évangile du dimanche passé. Désormais, c'est vraiment Thomas qui doit nous inspirer dans ce sens. crois ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu peux prendre à bras le corps à travers tes sens.
Et il est aussi dit heureux ceux qui croient sans voir.
Mais oui, pas mais sans oui, expérimenter. Parce que les deux, mais absolument. Mais vous savez, le réel est de l'ordre du paradoxe. Il y a toujours une possibilité, lorsque vous avez mis en place une affirmation, de répondre, mais attention, il y a le soleil et il y a la lune. Tout le réel est constitué de forces antinomiques. Mais chacune n'est vraie qu'à un moment. On deviendrait fou si on se disait, mais n'importe quoi, alors c'est ou bien ceci ou bien cela. Non, pas du tout. C'est ça. C'est ça qu'il faut saisir. À un moment de l'existence, c'est l'un ou c'est l'autre. C'est une réponse unique à une situation unique. Mais il y a immédiatement la possibilité du contraire. Et quand je dis, Thomas, à un moment de la vie, il faut jeter tout ce qu'on nous a inculqué et qui n'est pas de l'ordre du vécu. Il faut l'éjecter de nous pour que l'espace puisse se mettre à disposition d'un saisissement, de quelque chose que j'expérimente par moi-même. Si je vis toute ma vie d'un savoir rapporté, d'une foi rapportée, d'une croyance rapportée, je serai comme le frère du fils prodigue, n'est-ce pas ? Celui qui revendique, qui dit « mais moi j'ai toujours ». Oui, exactement, tu as toujours. Donc tu n'as jamais vécu le déchirement de la séparation pour entrer après dans le ravissement de pouvoir toucher toi-même, de voir « mais c'est vrai, j'en avais douté, mais c'est vrai ». Vous vous rendez compte ce qui se passe dans Thomas ? Il en a douté, mais il a touché. Mais c'est quelque chose de... C'est une expérience inouïe, c'est l'expérience du fils prodigue. Il revient pour toucher. Et en même temps, dans un autre ordre de choses, une autre attitude serait possible, mais ce n'est pas celle du fils qui est resté à la maison. C'est celle de celui qui a dit « quoi qu'il advienne, je crois, je reste dans la proximité du Seigneur ». C'est tout à fait autre chose, mais sans avoir créé une revendication de supériorité sur ceux qui se sont égarés, qui se sont éloignés, pour avoir au fond la grâce du retour.
Christiane Singer, dans votre livre, on voit que vous êtes très attentive à une question qui rejoint beaucoup de gens aujourd'hui, c'est la question du vieillissement. Vous avez fait allusion à tous ceux qui ont peur de vieillir aujourd'hui. Comment aborder ce vieillissement ?
J'ai peu de convictions, dans ce sens que je me laisse vraiment surprendre par la vie, mais là, il y a un point où tout converge dans l'expérience de ma vie à me montrer que c'est bien cela. La vieillesse est la grande chance de la vie et la grande chance de s'humaniser enfin. Et dans le refus de vieillir d'une civilisation, il y a un refus féroce de s'humaniser. Vieillir, le masque se dissout de lui-même. Quand les choses se passent bien, c'est évident que quand on entre dans l'amertume et quand on se tient au poignet, au bar, comme dans l'autobus, pour surtout pas avancer d'un pas, tout ça, c'est le contraire. La vieillesse devient un lieu de carnage et de cruauté, de dureté, de désespoir et d'amertume profonde. Mais dans l'acceptation d'avancer, il y a un secret extraordinaire qui se révèle. C'est que plus je m'abandonne, plus je laisse tout ce que j'ai cru avoir constitué mon moi, toute mon apparence, tous les projets de vie, lentement, il faut les abandonner, il faut déposer au vestiaire, la fête se termine. Et dans cet abandon monte quelque chose, moi j'oserais dire que c'est de l'humour, une liberté, une humilité et un humour immense qui vous fait dire, bon, oui, la fête approche de sa fin, je ne vais pas me cramponner au rideau pour ne pas être expulsée. Elle touche à sa fin, j'ai eu ma part, j'ai eu mon compte, je rayonne encore pour tous les miens, pour ceux qui m'entourent, de cette foi dans la traversée d'une existence, d'une sacrée aventure, une aventure sacrée. Poursuivez, ne craignez rien, avancez. Il y a quelque chose qui entre en nous comme une confiance immense. Mais il faut accepter, Et vieillir n'est pas fait pour les mauviettes. C'est une grande aventure de dépouillement. Il va falloir dépouiller une chose après l'autre. Et en même temps, au fur et à mesure de ce dépouillement, vous envahit une forme de liberté et de richesse qui ne ressemble à rien.
Vous écrivez que ce qui compte, c'est l'importance du travail intérieur à cette époque, à cette tranche de la vie.
Eh oui, mais le travail intérieur, il est déjà dans la moitié de l'existence au moment de ce passage vers les 42 ans. J'ai écrit un livre sur les âges de la vie où j'ai tenté de montrer ces métamorphoses de l'être au cours de la vie. Il est évident que tout cela ne vaut que si on a appris en cours d'existence à mourir. Et ces occasions nous sont données si souvent, toutes les crises, les séparations, les formes, les maladies, toutes les formes, tout nous invite à apprendre à laisser derrière nous. La mort ne nous enlèvera que ce que nous avons voulu posséder. Le reste, elle n'a pas prise sur le reste. Et c'est dans ce dépouillement progressif se crée une liberté immense et un espace agrandi, exactement ce qu'on n'avait pas soupçonné. Moi, j'ai une confiance immense dans le vieillissement parce que je dois à cette acceptation de vieillir une ouverture qui est insoupçonnable quand on n'a pas l'audace d'y entrer.